Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. On va voir ce matin l'exhortation en vue de la victoire. Exhortation en vue de la victoire. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Bon, on va lire ensemble, tiens, ce matin, Philippiens 4, 4 à 9. Et on va se lever, par honneur à la lecture de la parole de Dieu, on va se lever. Philippiens 4, 4 à 9. Ça dit, ensemble, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. C'est la vérité, Seigneur Dieu. Seigneur, merci de nous l'avoir donnée, même dans notre langue, en français. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à bien la comprendre. Seigneur, aide-moi à bien communiquer droitement ta parole. Au nom de Jésus, amen. Pouvez-vous asseoir. Exhortation en vue de la victoire. Donc, pour ceux d'entre nous qui avons accepté Jésus comme sauveur, ben, il nous dit quoi? Il nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Se réjouir toujours dans le Seigneur. Il faut une cause à la joie. Et ceux qui sont écrits dans le livre de vie, comme on vient de lire la semaine dernière au verset 3, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Je me rappelle un ami au Québec. Il y avait une chose qui le démarquait. Peu importe ce qui arrivait dans sa vie, il y avait toujours une joie de vivre. La simplicité du fait que son nom était écrit dans le livre de vie, sa place était réservée au ciel. Pour lui, il n'en revenait pas. Il était converti depuis des nombreuses années, mais sa femme ne s'était jamais convertie à ce moment-là. Peut-être depuis. Mais il a toujours gardé cette joie-là. Et ça, quand je pense à mon ami, je pense toujours à la joie. Eh bien, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a une cause pour laquelle on peut toujours se réjouir, peu importe le nombre d'épreuves qu'on peut avoir. S'il répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de répéter, de se réjouir? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de répéter, de se réjouir dans le Seigneur? Les épreuves? Est-ce que les épreuves, c'est qui a toujours tendance de se plaindre? C'est pour ça que Paul le répète, je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Se réjouir est une décision. Qui pense que la joie, c'est simplement une émotion? Non, c'est une décision. On doit décider de se réjouir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que si on laisse nos émotions nous guider, voilà, on est haut, et ensuite on est très bas. Hein, nos émotions, ils nous amènent nous dans la vie, on suit nos émotions, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Non, nos émotions, on les prend et on les met derrière nous, puis on dit, je vais me réjouir dans le Seigneur. Nos émotions suivent. Il y a des fois dans ma vie, j'ai pris par décision de prendre personnellement un livre de cantique puis de commencer à chanter. Parce que Dieu commandait de se réjouir Et là, à la fin du chant, là, le cœur y était. Au début du chant, non. Mais on décide. On décide. Se réjouir, c'est une décision. C'est un commandement. Il faut décider. Quand on connaît le Seigneur, Dieu nous commande de nous réjouir. Si on ne connaît pas le Seigneur, Dieu nous commande de se repentir. La repentance, c'est la tristesse sur le mal de nos péchés. Mais quand on se convertit, ensuite Dieu il veut qu'on se réjouisse. C'est pour ça que dans Néhémie 8, 10, ça dit, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Oui, ils avaient pris un temps de se repentir sur le mal qu'ils avaient péché, sur leur péché. Ils en étaient tristes. C'est bien. Ensuite, on se réjouit dans le Seigneur, son pardon. Je ne sais pas comment on dit pardon. Comment est-ce qu'on dit le pardon? Ah, le pardon de nos péchés. On peut se réjouir. Ça, c'est le pardon. Alors, Dieu nous dit de se réjouir dans le Seigneur après que nos péchés donc, ont été pardonnés. Il y a cause de se réjouir. Et si on chute dans le péché, ben, on pleure un bon coup, comme Jacques nous dit, d'être triste, et puis de revenir vraiment en bonne communion avec le Seigneur. Et ensuite, on peut se remettre à se réjouir. Deuxièmement, un cœur doux. Un cœur doux. Un cœur doux dont Dieu nous veut qu'on ait. Au verset 5, il dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche, comme il dit. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Donc, deux choses à le Seigneur est proche. Un, il revient bientôt, c'est la victoire. Pourquoi se laisser manger l'amertume dans les difficultés, dans les épreuves? Dieu revient bientôt. La victoire est là. Il suffit de tenir un petit peu plus longtemps, puis ensuite, Jésus, il revient. Mais l'autre sens aussi, le Seigneur est proche, c'est que même dans notre épreuve, Dieu, Jésus est proche. Comme il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus promet d'être proche de nous à travers toutes les difficultés. Non seulement on peut se réjouir, mais on peut être doux. On peut être patient. On peut ne pas se laisser manger par l'amertume et par l'irritation. La Bible est claire à propos de ne pas être rapide à s'irriter. Il le dit dans Ecclésiaste 7:9. Ecclésiaste 7:9. On l'a vu avec les adolescents en novembre. On a parcouru l'Ecclésiaste, la pensée humaine naturelle. Tout est vain. Mais la conclusion, c'est de craindre Dieu. Mais à travers Ecclésiaste, quelques sagesses aussi nous sont données. Ecclésiaste 7:9, ça dit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Ne sois pas vite à te fâcher. Ne sois pas à devenir fâché. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Parce qu'il dit quoi? Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. C'est les insensés qui sont vite à s'irriter. C'est les insensés là que tout de suite quelque chose ne fait pas leur affaire, ils se fâchent. Parce qu'ils sont centrés sur soi-même. Ils ne considèrent pas la patience de Dieu, la grâce de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Et ils vont simplement réagir très rapidement. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Jacques chapitre 1, verset 19 et 20. Jacques chapitre 1, verset 19 et 20. Dieu, il veut qu'on sache quoi? Ben, il veut qu'on sache que tout homme soit prompt à écouter. Dieu veut qu'on soit vite à écouter. Dieu, il veut qu'on soit très vite à écouter. Quelqu'un commence à parler? Arrêtez-vous de parler pour commencer à écouter. Soyez vite à écouter. On a plusieurs jeunes ici. Papa, maman parle. On écoute. Un de vos aînés parle. On écoute. Un de vos pères parle. Écoutez quand même. Mais encore plus alors, vos aînés. Il dit ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Mais ensuite il dit lent. Lent à parler. Ça veut dire, as-tu réfléchi avant de parler? T'es-tu donné du temps? Est-ce que tu sautes à l'occasion de parler? Ou est-ce que, après quelques secondes, ok, ouais, je pense que ça serait bon que je dise quelque chose. Alors là, tu peux, là, t'es lent à parler. Est-ce que c'est votre caractéristique d'être lent à parler? Ou est-ce qu'il faut qu'on vous ralentisse constamment? Lent à parler. Mais ensuite, il dit lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Lent à être irrité. Ça veut dire que quelqu'un nous frappe, on va endurer. Ça va en prendre beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se fâche jamais? Il y a un temps pour tout. Jésus s'est fâché. Jésus, il s'est fâché contre ceux qui vendaient dans l'église. Hein, ceux qui vendaient des choses. Jésus, il a tout renversé les tables parce qu'il était fâché. Il a dit, ce lieu, c'est une maison de prière pour mon Dieu. Puis vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus s'était fâché pour la cause de Dieu. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de se mettre en colère. Quand un parent se fâche envers un enfant qui a désobéi, c'est normal. Il y a une manière aussi de se fâcher. Mais c'est bien de se fâcher contre le mal. Si on ne se fâche pas contre le mal, et que le mal, ça ne vaut rien, et que ça n'amène, ça suscite aucune conséquence et aucune réaction, ben alors on ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Mais Dieu nous a demandé, en tant que parents, de enseigner la différence entre le bien et le mal. C'est quoi le mal? Le mal. Donc la différence, il y a le bien, il y a le mal. Puis Dieu veut qu'on l'enseigne. Donc il y a un temps pour s'irriter contre le mal. Il y a un temps pour tout. Mais quand même d'être lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors un cœur doux, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ensuite, un cœur, troisièmement, un cœur tranquille, un cœur reposé. Pourquoi? Parce qu'on se confie en lui, on lui fait confiance. Ésaïe 30:15, regardez dans Ésaïe 30:15. Dieu voulait que son peuple lui fasse confiance. Il avait délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il l'avait délivré de tant de choses à travers l'histoire. Il avait pourvu pour eux à travers la faim, la soif. Dieu avait fait tellement pour son peuple. Et Dieu, il voulait que son peuple lui fasse confiance. Mais son peuple n'a pas fait confiance à Dieu. À Ésaïe 30, verset 15, il dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Dieu est... Il avait permis qu'ils soient entourés. Jérusalem était comme entouré de soldats. Et Dieu leur avait promis, ne vous inquiétez pas, je vais vous délivrer. Et eux, ils avaient peur. Peur de toutes les gens autour confier en Dieu qui était tout puissant.
Et Dieu leur dit, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes affolés?
À ce moment-là, dans l'histoire, Ézéchias, oh, il cherchait à bâtir, à aller faire ça. Oh, il était tout affolé à cause de toute l'ennemi. Et Dieu leur dit, calmez-vous, faites-moi confiance. Je suis tout puissant.
Et nous alors, dans nos vies, oh, l'auto tombe en panne, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'auto, demain on doit aller au travail, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, 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 on devient tout affolé. Si Dieu a pourvu notre auto, il pourra pourvoir un moyen de le réparer, ou il peut pourvoir un autre moyen de transport demain au travail. Il n'est pas limité dans sa manière. Tout ce qu'il veut, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Dieu, il est tout puissant et il est sage. Comment on dit sage? Sage. Lui, il est sage. Alors, on lui fait confiance et on va être calme. Et on va se réjouir. Et on va être doux. Donc, tout ça, ça va ensemble. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas dans les besoins. Mais il dit simplement ne rien faire. Non, faites connaître. Dieu, il veut qu'on le prie. On lui dit, regarde, il y a telle situation. Et on lui demande. D'une façon tout affolée, non, en toute calme. Et on lui fait confiance, on attend sur sa délivrance, sur sa manière. Et Dieu n'est pas limité. Peut-être qu'il ne veut pas qu'on aille au travail demain. Et ensuite, on s'était tout affolé parce qu'on ne pourrait pas aller au travail demain, on n'a pas de moyen de transport, pour des coups, etc., pour X raisons. C'était une bonne chance qu'on n'était pas allé au travail le lendemain. Vous savez, quand le jour que, malheureusement, en 2001, septembre 11 2001, quand les deux avions sont rentrés dans les tours, New York, beaucoup moins de personnes que normal étaient au travail cette journée-là. Pour X raisons, il y avait beaucoup, beaucoup d'absents. Parfois, c'est une bonne chose qu'on n'arrive pas à se présenter au travail. Beaucoup de gens ont été épargnés, qui normalement auraient été là. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. On peut lui faire confiance. Alors quand quelque chose arrive, et qu'on le connaît comme Seigneur, et Sauveur, Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Ne vous inquiétez de pas grand-chose. Non, non. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Merci Seigneur. Je ne connais pas encore la réponse. Mais je peux déjà te remercier. Que la réponse va être bonne, elle va être agréable, elle va être sage. Tu vas donner ta grâce à travers, mais si c'est difficile, il y a de quoi toujours te remercier avec action de grâce. Et ensuite, quelle est la promesse? Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs. Vous savez, il y a un ordre dans la chose. Quand on connaît le Seigneur, est-ce qu'il va avoir des épreuves? Oui. Est-ce qu'il va avoir la tentation de vous inquiéter? Oui. Est-ce qu'il va avoir le... Qu'est-ce qui va arriver demain? Je ne peux pas aller au travail. Mon auto est brisé. Il doit avoir une décision. Dieu dit de ne pas s'inquiéter. Ok Seigneur. Je te présente la situation. J'ai besoin d'aller au travail. Tu trouves une solution. Tu confies ça. Et je te remercie pour ce que tu vois. Comment tu vas répondre à la chose. Même si ce n'est pas d'aller au travail parce que tu connais mieux. Peu importe ce que tu vas décider, je te rends grâce. On décide le stress naturel, l'inquiétude naturelle avec laquelle on commence à se ressentir. On dit, ok, ne vous inquiétez pas, c'est une décision. On décide de se reposer. Et ensuite, ça dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. C'est après que Dieu donne une grâce de Dieu. Après qu'on ait décidé de lui faire confiance avec la situation.
Apeurés selon Dieu, il donne. Et donc, les émotions apeurées, on décide, les émotions nous suivent. La situation nous stresse, ok, c'est naturel, mais qu'est-ce qu'on va prendre de ça? Seigneur, je décide de ne pas m'inquiéter, je décide de te confier la chose, je te remercie d'avance pour la situation. Et ensuite, Dieu, il donne une paix comme on ne peut pas s'imaginer. C'est comme quand Dieu a demandé aux Lévites qui transportaient l'arche, ils devaient passer par une rivière. Et il avait promis que quand il mettrait le pied, l'eau s'arrêterait. Le sacrificateur a dit, Dieu, avant que je mette le pied. Dieu dit, non, mets le pied, ensuite il va briser. Ensuite, il fallait d'abord qu'il mette le pied dans l'eau. Et ensuite, il va ouvrir. Nous, c'est comme, ouvre, ensuite je vais mettre le pied. Voyez-vous? Dieu, il veut qu'on décide. On décide d'obéir. On décide de ne pas s'inquiéter. On décide de lui faire confiance et d'être tranquille. Ne vous inquiétez de rien. Un cœur tranquille. Mais maintenant, passons un point plus loin. Un cœur discipliné. Quatrièmement, un cœur discipliné. Discipliné. Verset 8. « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Qu'est-ce qu'on va penser? Ça doit être les choses qui sont vraies, ça doit être les choses qui sont pures, pas mauvaises. Dieu veut que nos pensées, on les garde sur ce qui est bien, pas sur ce qui est mauvais. Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Les idées qui nous viennent à la tête, est-ce qu'on en est responsable ou non? Une idée nous vient à la tête. On peut se dire, comment est-ce qu'une idée comme ça m'est venue à la tête? Voilà. Est-ce qu'on est responsable de ce qui nous passe par la tête? Oui et non. Oui, d'abord. Romains 13, 14. Dans quel sens est-ce qu'on peut être responsable de ce qui nous passe par la tête? Eh bien, si on nourrit beaucoup de mauvaises choses, si on lit beaucoup de livres qui sont mauvaises, si on regarde des émissions ou des documentaires ou des films, etc., des vidéos qui ne sont pas bonnes, si on écoute de la mauvaise musique, si on se tient avec une mauvaise compagnie, après ça, c'est normal qu'il y a toutes sortes de mauvaises choses qui nous viennent à l'idée. On a nourri toutes sortes de mauvaises idées. Et c'est pour ça que dans Romains 13, 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est comme un monstre qui est petit, puis nous, on le nourrit. Si on nourrit le monstre, il va devenir de plus en plus gros. Il ne faut pas le nourrir. Si on nourrit notre ancienne nature, si on est sauvé, qu'on nourrisse avec toutes sortes les albums qu'on peut regarder, tout ça, les amis avec qui on aime se tenir, puis qui parlent toujours de mauvaises choses, on se nourrit. Après ça, qu'on tombe et qu'on fasse des choses de la convoitise de la chair, c'est normal. Il dit, n'ayez pas soin de la chair. Ne nourrissez pas un monstre. Non, j'ai dit oui et non. Dans quel sens non? D'abord, si on ne nourrit pas la chair, est-ce qu'on peut avoir des mauvaises idées qui nous passent par la tête sans qu'on en soit responsable? Oui. On vit dans ce monde. On va toujours avoir une mauvaise influence de par défaut de vivre dans ce monde. On va à Carrefour et tout le temps une mauvaise influence, etc. Nos cœurs sont une mauvaise influence. Nos anciennes natures. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, Philippiens 4. Justement. Regardez d'abord dans 2 Corinthiens 10, 5. Quand une idée nous passe par la tête, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une bonne idée? C'est bien. C'est une mauvaise idée? Ok, c'est une idée qui passe par la tête.
Est-ce qu'elle est mauvaise? On la rejette. Est-ce qu'une idée nous passe par la tête, puis elle est bonne? Ah, méditons là-dessus. Donc, on analyse, qu'est-ce qui nous passe par la tête? 2 Corinthiens 10, 5, ça dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tout ce qu'on pense, on l'amène et on obéit à Dieu. Et donc, dans ce contexte-là, justement, Philippiens 4, 8 nous ordonne les choses qu'on va choisir, sur lesquelles on va penser. On ne parle pas nécessairement d'une idée qui nous passe par la tête. Une idée qui nous passe par la tête, elle est bonne, on va continuer à penser. Elle est mauvaise, on la rejette. Mais si on se nourrit de mauvaises idées, c'est certain qu'on est comme on est en train de nourrir un problème. Donc, comme ça, on a déjà adressé ce problème-là. Mais sans qu'on nourrisse un problème, on va toujours avoir des mauvaises idées qui vont nous passer par la tête. On n'a pas besoin de dire « Ah, ben, je me sens coupable, j'ai eu une mauvaise idée qui me passe par la tête. » Non, on la prend et on dit « Non, ce n'est pas une bonne chose de penser à ça. » Et on pense alors à quoi? Ce n'est pas suffisant de dire « Je ne vais pas penser au mal. » Laissez-moi vous dire, ne pensez pas à un bateau en ce moment-là. Ne pensez pas à un bateau. Ne pensez pas à un bateau. À quoi tu penses? À un bateau. Mais si je vous dis, pensez à un avion. Pensez à un avion. Pensez à un avion. Pense pas au bateau. Mais pensez à un avion. Tu penses à quoi? À un avion. Alors Dieu, il veut que on remplisse sa tête de bonnes choses à laquelle penser. Pas juste qu'on soit, non, il ne faut pas que je pense ça, Non, on va prendre des bonnes choses auxquelles penser. Donc, il dit, tout ce qui est vrai, c'est vrai. Ou c'est... pas vrai, c'est quoi? C'est pas vrai, c'est un mensonge. Je sais pas. Comment est-ce qu'on... Ah, ça c'est mensonge. Alors, tout ce qui est mensonge... Non, tout ce qui est vrai, on pense à ce qui est vrai. Alors, le premier critère, tout ce qui est vrai, pas des accroires, des calomnies, tout ça, oubliez ça, il n'y a rien de certain là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans les nouvelles aussi que ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, ce n'est pas ça l'autorité. Tout ce qui est honorable, digne d'honneur, rien de douteux. Tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, pas de demi-mesure, pas de compromis. Tout ce qui est pur, alors ça, je ne sais pas comment dire pur, mais... Tout ce qui est pur, de haute moralité, pas qui est douteux, puis pas qui est... Tout ce qui est pur, de ne pas s'adonner à des conversations ou à des pensées ou de lire des articles qui glorifient les choses mauvaises. Là, c'est dur de penser à ce qui est pur. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Faites que si on pouvait ouvrir notre pensée, on dirait « Ah, c'est beau !» Si on peut ouvrir la pensée, « Ah, c'est des bonnes choses !» Au lieu de « Ah hein, !» Si on pouvait ouvrir « Ah !» Pensez à tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Donc c'est une bataille. Pour ceux d'entre nous qui sommes sauvés, on est bombardés. C'est avec des... mauvaises choses, avec des choses pas bonnes, on doit penser à ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est aimable, choisir. Maintenant, il nous reste un cinquième caractéristique de ce que Dieu veut qu'on soit, un cœur obéissant. Verset Philippiens chapitre 4, verset 10. Philippiens 4, 9, pardon. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pensez à ça. Est-ce que j'ai bien lu? Vous avez suivi? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pensez à ça. C'est pas ça?
Pratiquez-le.
Oh, pratiquez-le! Pratiquez-le! De le faire! Faire quelque chose, je ne sais pas comment on dit. Faire. Dieu veut qu'on obéisse. On dise oui, et on va faire ce qu'il nous dit de faire. Ça sert à rien d'en juste y penser. Et je sais que plusieurs peut-être pensent depuis longtemps à l'évangile, mais vous n'en faites rien encore. Je vous encourage, faites-en ce qu'il faut, faites! Repentez-vous et croyez, il y en a qui savent, peut-être, et qui n'ont plus de questions, c'est simplement ils ne veulent pas, mais je vous encourage d'arrêter d'y penser puis de le faire. Mais pour les chrétiens aussi, s'il y a des choses qu'on sait, qui sont bien, mais qu'on ne les fait pas, on doit les mettre en pratique. On doit agir. C'est pas simplement penser. Oui, c'est important de penser. Beaucoup de notre conduite va à découler de ce qu'on pense. Mais on ne peut pas retourner la chose à l'envers et dire « Ah, je me satisfais de ne faire que d'y penser. » On doit agir. On doit s'impliquer. On doit être occupé. Bon, il y a des choses qu'on doit être occupé pour pouvoir vivre, mais on doit être occupé à la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu nous a donné beaucoup à faire. Alors, on doit vraiment se mettre en branle et agir. Autrement, si on apprend sans à faire, on devient plus responsable et on va être encore plus coupable de ne pas obéir. Proverbe 28, 9, ça dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas entendre la loi, on ne veut pas entendre, on ne veut pas faire. Sa prière même est une abomination. Alors, on ne peut pas dire, ah, moi, je prie beaucoup. Mais faire ce que Dieu nous dit, non, je ne veux pas faire ce qu'il nous dit. Dieu, il dit, tes prières, j'en veux pas. Sa prière même est une abomination. Alors, n'oublions pas d'avoir ce cœur obéissant. Et maintenant le dernier, quel genre de cœur? Regardez Philippiens 4, verset 9, à la fin de 9. Qu'est-ce qu'il dit? Quel genre de cœur est-ce qu'on peut et on doit avoir face à Philippiens 4, 9? Et le Dieu de paix sera avec vous, un cœur apaisé et accompagné. Ah, ça c'est merveilleux, un cœur apaisé et accompagné. Avez-vous remarqué que la paix de Dieu, quand on lui apprend nos pratiques, nos requêtes, il nous dit la paix de Dieu gardera vos cœurs, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Et maintenant il dit à la fin, le Dieu de paix sera avec vous. On aura un cœur apaisé et accompagné, la présence même du Dieu de paix. Alors, qu'en est-il de vous? D'abord, est-ce que vous êtes sauvés? Si vous n'êtes pas sauvés, ces choses-là ne vous concernent pas. Mais ils devraient vous concerner si vous acceptez Jésus. Là, ensuite, vous pouvez commencer à mettre ces choses en pratique. Mais si vous n'avez pas encore accepté, si votre nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie, c'est par là que ça commence. J'encourage. Vous ne pouvez pas avoir la paix avec Dieu. Le Dieu de paix ne pourra pas être un Dieu de paix pour vous si vous êtes toujours son ennemi. Et Dieu nous dit que tant qu'on n'est pas venu à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est encore sous l'inimitié de Dieu, on est toujours ennemi de Dieu. Donc j'espère que vous pourrez avoir le Dieu de paix proche de vous, à vous réconcilier avec lui si vous n'êtes pas encore sauvé. Si vous êtes sauvé, Dieu nous exhorte. Dieu nous exhorte d'avoir un cœur joyeux, un cœur doux, un cœur tranquille. Un cœur discipliné et un cœur obéissant pour qu'ensuite on puisse avoir un cœur apaisé et accompagné. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. On te prie que tu puisses toucher nos cœurs. Seigneur Dieu, toi tu es bon, tu es saint, tu es juste, tu haïs le mal, tu aimes le bien. Tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, que tous soient sauvés. Seigneur, merci. Merci aussi que tu nous donnes, à ceux d'entre nous qui te connaissons, tu nous donnes toutes les raisons, Seigneur Dieu, de pouvoir nous réjouir, de pouvoir être sans inquiétude, de pouvoir être aux disciplines de nos pensées, de nos cœurs, et d'être actifs, Seigneur Dieu, par obéissance, parce que tu es là, tu es proche, tu reviens bientôt. Tu as déjà payé pour la victoire et acquis la victoire. Elle est de notre côté, il suffit qu'on marche à la lumière de la victoire. Et tu nous en as donné tous les moyens. Je te prie donc de sonder nos cœurs, Seigneur Dieu, voir vraiment si on marche sur la bonne voie, si on est obéissant, si on est pur dans nos pensées, si on est tranquille dans nos cœurs. si vraiment on est doux et joyeux. Seigneur, on te prie donc, travaille dans nos cœurs de chacun, selon le besoin de chacun, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la marche chrétienne, on te supplie, on te prie, fasse toucher chacun des cœurs au nom de Jésus.